Examen de 9e. Devoir de compréhension orale. Année scolaire 2012-2013. Préparez-vous au devoir numéro 1. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Écoutez l'enregistrement et cochez la case correspondante. Suivez l'exemple. Première écoute.
Enquête. Mais qui sont les digital natives? Web. Comment se comportent sur la toile les digital natives, cette next generation née après Internet et l'ayant donc toujours connue? Une étude publiée par une association d'éducation aux médias renverse quelques idées reçues. Tiré de 20 minutes.
Les ados d'aujourd'hui seraient-ils des futurs drogués aux écrans d'ordinateur, laptop, netbook et autres smartphones? Déjà, cette étude de Pew Internet and American Life Project avait beaucoup fait jaser sur le sujet. D'après celle-ci, les ados américains délaisseraient les blogs au profit des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Seulement 14% déclarent avoir blogué en 2009, alors qu'ils étaient 28% en 2006. S'en était suivi un article du New York Times le 20 février, titré avec un humour grinçant « Si vos enfants sont réveillés et sont probablement en ligne ». Une étude réalisée par les sociologues Elodie Credens et Barbara Fontarp pour l'association Fréquence École taille en pièces bon nombre d'idées reçues sur le digital native.
Jix, vraiment ? Certes, ils sont nés après Internet et l'ont donc toujours connu. D'ailleurs, le taux d'équipement a bondi dans les foyers français. Près de 70% ont deux ordinateurs ou plus à la maison, naviguent presque tous, 99% sur le web et même de manière quotidienne pour près de la moitié d'entre eux, 44,5% de façon quotidienne. Le téléphone portable a largement envahi les cours de récré. La quasi-totalité des lycéens en a un, 61,1% des collégiens aussi, et même 30% des petits en primaire. Sur l'ensemble, 40% sont équipés d'un smartphone leur permettant d'aller sur Internet. Dans la pratique, loin d'être scotchés à leur écran, ils passent en moyenne 2 heures par jour sur le net à la maison, estime Elodie Credens. Et encore, ils sont souvent connectés à Internet sans l'utiliser. Car les digital natives sont multitâches. Sur leur ordi, ils ont leur fenêtre MSN ouverte pour pouvoir chatter avec leurs amis, écoutent de la musique, se connectent sur Facebook, tout en faisant leurs devoirs. D'ailleurs, pour communiquer, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux et les messageries instantanées, ainsi que les SMS, mais relativement peu la voix. En cause, souvent, leur forfait avec des heures de communication limitées et des SMS illimités, précise Elodie Credens. L'email, lui, est limite ringard. Ils l'utilisent pour écrire à leur mamie ou parfois faire passer des infos comme leur date de répétition de concert, raconte la sociologue.
Relations sociales en ligne. Mais tout se retrouve dans des pratiques de réseaux sociaux. Facebook, YouTube et MSM sont leurs sites préférés, tandis que Twitter est peu utilisé. Près de 86% des lycéens interrogés possède ainsi un compte Facebook. Les blogs et Facebook ont la cote dès le collège. Avoir un blog leur permet d'afficher leur vie sociale, de se mettre en scène, d'afficher leur popularité. Il y a même des battles entre blogs, détaille Elodie Credence.
Télé out. Autre fait surprenant, il déserte la petite lucarne au profit du net. Si les enfants de primaire regardent davantage la télé qu'ils ne sont sur Internet, les choses s'inversent chez les lycéens. Ils s'échangent beaucoup de liens sur YouTube, autour de l'humour, de buts de foot. Ils regardent des séries en vidéo à la demande, précise Elodie Credence.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Enquête. Mais qui sont les digital natives? Web. Comment se comportent sur la toile les digital natives, cette next generation née après Internet et l'ayant donc toujours connue? Une étude publiée par une association d'éducation aux médias renverse quelques idées reçues. Tiré de 20 minutes.
Les ados d'aujourd'hui seraient-ils des futurs drogués aux écrans d'ordinateurs, laptops, netbooks et autres smartphones? Déjà, cette étude de Pew Internet and American Life Project avait beaucoup fait jaser sur le sujet. D'après celle-ci, les ados américains délaisseraient les blogs au profit des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Seulement 14% déclarent avoir blogué en 2009, alors qu'ils étaient 28% en 2006. S'en était suivi un article du New York Times le 20 février, titré avec un humour grinçant « Si vos enfants sont réveillés et sont probablement en ligne ». Une étude réalisée par les sociologues Elodie Credence et Barbara Fontarp pour l'association Fréquence École taille en pièces bon nombre d'idées reçues sur le digital native.
Jix, vraiment ? Certes, ils sont nés après Internet, et l'ont donc toujours connu. D'ailleurs, le taux d'équipement a bondi dans les foyers français. Près de 70% ont deux ordinateurs ou plus à la maison, naviguent presque tous, 99% sur le web, et même de manière quotidienne pour près de la moitié d'entre eux, 44,5% de façon quotidienne. Le téléphone portable a largement envahi les cours de récré. La quasi-totalité des lycéens en a un, 61,1% des collégiens aussi, et même 30% des petits en primaire. Sur l'ensemble, 40% sont équipés d'un smartphone leur permettant d'aller sur Internet. Dans la pratique, loin d'être scotchés à leur écran, ils passent en moyenne 2 heures par jour sur le net à la maison, estime Elodie Credence. Et encore, ils sont souvent connectés à Internet sans l'utiliser. Car les digital natives sont multitâches. Sur leur ordi, ils ont leur fenêtre MSN ouverte pour pouvoir chatter avec leurs amis, écoutent de la musique, se connectent sur Facebook, tout en faisant leurs devoirs. D'ailleurs, pour communiquer, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux et les messageries instantanées, ainsi que les SMS, mais relativement peu la voix. En cause, souvent, leur forfait avec des heures de communication limitées et des SMS illimités, précise Elodie Credence. L'email, lui, est limite ringard. Ils l'utilisent pour écrire à leur mamie ou parfois faire passer des infos comme leur date de répétition de concert, raconte la sociologue.
Relations sociales en ligne. Mais tout se retrouve dans des pratiques de réseaux sociaux. Facebook, YouTube et MSM sont leurs sites préférés. tandis que Twitter est peu utilisé. Près de 86% des lycéens interrogés possèdent ainsi un compte Facebook. Les blogs et Facebook ont la cote dès le collège. Avoir un blog leur permet d'afficher leur vie sociale, de se mettre en scène, d'afficher leur popularité. Il y a même des battles entre blogs, détaille Elodie Credence.
Télé out. Autre fait surprenant, il déserte la petite lucarne au profit du net. Si les enfants de primaire regardent davantage la télé qu'ils ne sont sur Internet, les choses s'inversent chez les lycéens. Ils s'échangent beaucoup de liens sur YouTube, autour de l'humour, de buts de foot. Ils regardent des séries en vidéo à la demande, précise Elodie Credence.
Vous avez quelques minutes à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 2. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Écoutez l'enregistrement, choisissez la bonne réponse en suivant l'exemple. Première écoute.
Est-ce que on observe des phénomènes de mode dans le sport en matière de couleurs ?
Oui, par exemple en football, quand équipes et pays d'Europe ont rencontré des pays et des équipes d'Amérique du Sud, les couleurs de l'Amérique du Sud sont devenues à la mode en Europe, celles de l'Uruguay, celles du Brésil, qui étaient parfois plus fortes que les pays européens. Et donc le jaune, le bleu ciel et le vert, dans un deuxième temps, dans les années 1950 et 1960, ont commencé à se faire plus nombreux sur les terrains de football, alors qu'avant-guerre, c'était des couleurs rares. Donc le fait que le Brésil, par exemple, soit devenu la meilleure équipe du monde, a créé cette mode du jaune et du vert. Deux villes françaises ayant eu un club de football professionnel assez tardivement ont pris ces couleurs. Saint-Étienne avec le maillot vert et Nantes, les Canaries, avec leur maillot jaune. C'était impensable dans les années 30, mais dans les années 50 et 60, c'était à la mode.
Et donc c'est une influence indirecte du Brésil.
Voilà, du Brésil et plus timidement de l'Argentine et de l'Uruguay qui jouent en maillot bleu, mais un bleu ciel, donc une nuance particulière.
Oui, puis qui, disons-le, sont un peu moins forts au football.
Un petit peu moins forts au football, encore que quand on regarde des palmarès, l'Uruguay par exemple, auquel on ne pense pas, des palmarès magnifiques.
Parlant de mode, est-ce que ce sont les vêtements de sport qui influencent la mode ou l'inverse ?
Pendant longtemps, c'était deux mondes tout à fait séparés. Et puis au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans le monde britannique d'abord et puis ailleurs ensuite, ce qu'on appelle le sportswear est devenu dans l'air du temps et on s'est mis à porter dans la bonne société, non pas des tenues de sport en ville, mais des tenues influencées un petit peu par le monde du sport, notamment pour ce qui est des matériaux textiles et des coupes moins près du corps, plus à l'aise, plus débridées aussi. Aujourd'hui, c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire que c'est la panoplie sportive qui est entrée dans la rue et dans la vie quotidienne, et il n'est pas rare de s'afficher en tenue de sport ici ou là, alors que quand j'étais adolescent, par exemple, ça avait quelque chose d'honteux de se promener dans la rue en survêtement ou en tenue de tennis, ça ne se faisait pas, c'était de pire mauvais goût. Aujourd'hui, c'est devenu plus répandu, même s'il faut faire des distinctions sociales de ces pratiques.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Est-ce que on observe des phénomènes de mode dans le sport en matière de couleurs ?
Oui, par exemple en football, quand équipes et pays d'Europe ont rencontré des pays et des équipes d'Amérique du Sud, les couleurs de l'Amérique du Sud sont devenues à la mode en Europe, celles de l'Uruguay, celles du Brésil, qui étaient parfois plus forts que les pays européens. Et donc le jaune, le bleu ciel et le vert, dans un deuxième temps, dans les années 1950 et 1960, ont commencé à se faire plus nombreux sur les terrains de football, alors qu'avant-guerre, c'était des couleurs rares. Donc le fait que le Brésil, par exemple, soit devenu la meilleure équipe du monde a créé cette mode du jaune et du vert. Deux villes françaises ayant eu un club de football professionnel assez tardivement ont pris ces couleurs. Saint-Étienne avec le maillot vert et Nantes, les Canaries, avec leur maillot jaune. C'était impensable dans les années 30, mais dans les années 50 et 60, c'était à la mode.
Et donc c'est une influence indirecte du Brésil.
Voilà, du Brésil et plus timidement de l'Argentine et de l'Uruguay qui jouent en maillot bleu, mais un bleu ciel, donc une nuance particulière.
Oui, puis qui, disons-le, sont un peu moins forts au football.
Un petit peu moins forts au football, encore que quand on regarde les palmarès, l'Uruguay par exemple, auquel on ne pense pas, a des palmarès magnifiques.
Parlant de mode, est-ce que ce sont les vêtements de sport qui influencent la mode ou l'inverse ?
Pendant longtemps, c'était deux mondes tout à fait séparés. Et puis au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans le monde britannique d'abord et puis ailleurs ensuite, ce qu'on appelle le sportswear est devenu dans l'air du temps et on s'est mis à porter dans la bonne société, non pas des tenues de sport en ville, mais des tenues influencées un petit peu par le monde du sport, notamment pour ce qui est des matériaux textiles et des coupes moins près du corps, plus à l'aise, plus débridées aussi. Aujourd'hui, c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire que c'est la panoplie sportive qui est entrée dans la rue et dans la vie quotidienne et il n'est pas rare de s'afficher en tenue de sport ici ou là, alors que quand j'étais adolescent, par exemple, ça avait quelque chose d'honteux de se promener dans la rue en survêtement ou en tenue de tennis, ça ne se faisait pas, c'était de pire mauvais goût. Aujourd'hui, c'est devenu plus répandu, même s'il faut faire des distinctions sociales de ces pratiques.
Vous avez quelques minutes à votre disposition. Finissez le devoir.
fin de l'épreuve de compréhension orale. Rendez vos devoirs au professeur.